Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers pères et mères de Joël, ses frères, sa sœur, leurs conjoints, toute la famille, mes chers frères en Saint-Dominique, chers confrères dans le sacerdoce, Saint Paul écrit aux Corinthiens, je cite, « Tout ce qui a été écrit jadis l'a été pour notre enseignement, afin que nous possédions l'espérance par la constance et le réconfort des saintes Écritures. » Dans le livre des Rois, nous lisons les extraits suivants de la complainte de David, apprenant la mort du roi Saül et de son fils Jonathan. Faisons l'application à notre cher Joël. Comment sont tombés les héros au milieu du combat? Joël, par ta mort, nous sommes navrés. Nous sommes dans la détresse à cause de toi, notre frère Joël. Tu avais pour nous tant d'attrait. Ton amitié nous était plus merveilleuse que l'amour d'un époux ou d'une épouse. Oui, mes amis, notre ami Joël, un ami, quelqu'un que nous aimons et quelqu'un qui nous aime. D'abord, parlons de ces amitiés familiales, empreintes de piété, de respect. Il était fier de sa famille paysanne, oui, fier de son village de Champigny-sur-Veude. Il y revenait dès qu'il pouvait, par piété, par respect pour ses parents, par amour de sa terre. Il allait régulièrement visiter sa tante à Muret-Rigné. Il aimait parler de ses deux tantes religieuses. À l'occasion de ses ancêtres qui avaient accueilli des prêtres non-jureurs, et on disait dans la famille que ce courage de ses ancêtres avait valu des grâces à la famille. En novembre dernier, racontant son été, il ajoutait à la fin, « De retour en Touraine, fin août, nous avons eu les cousinades du côté de maman, la famille Godet, retrouvailles de presque toute la famille, oncles et tantes, cousins et cousines. Ce fut une grande joie de nous retrouver après ces deux années. » Et ajoutons, il y avait ces réunions familiales avec les vivants, mais il n'oubliait jamais les défunts. Que de messes, que de neuvaines de messes n'a-t-il pas fait célébrer pour les défunts de sa famille? Il était donc né dans la campagne, à Richelieu. Il avait fait ses études à Richelieu, le collège, puis était allé au lycée de Chinon, lycée Jeanne d'Arc, lycée privé sous contrat, décatholicisé. Sainte Jeanne d'Arc, il fallait dire. Et là, il était avec son ami Yves, qu'il connaissait depuis son enfance, et puis ce fameux monsieur Luc, ce professeur d'histoire. Ah, mes amis, un professeur d'histoire qui raconte la véritable histoire. Tous les samedis après-midi, Joël et Yves allaient retrouver ce professeur qui leur parlait de la France catholique et royale, des saints de la Touraine, Saint-Martin de Tours spécialement, mais de Clovis, Charlemagne, Sainte-Jeanne d'Arc, on était à Chinon. Il faut avoir entendu Joël dans les ruines du château de Chinon, mais on l'en voit encore très bien, la salle de réception où Charles VII s'était caché au milieu de sa cour pour que Sainte-Jeanne d'Arc ne le reconnût pas. Et la Sainte Pucelle n'alla pas au trône, elle alla trouver Charles VII. Après le baccalauréat, grande orientation, il va 5 années à Nîmes auprès du père Raffali. 5 années fondamentales dans sa formation. Il fait son premier camp d'été, 50 jours, s'il vous plaît, en 1989. puis il reste dans l'école. Il enseigne et il lit. Il lit beaucoup, spécialement les auteurs dits anti-libéraux. Il était très fier d'avoir lu là-bas les 9 volumes sur la Révolution par Monseigneur Gaume, et puis bien sûr le Vade-mecum, la Bible, pourrions-nous dire, Monseigneur de Lassus, la conjuration antichrétienne. Et bien sûr, comme toute âme bien née, chrétienne, baptisée, confirmée, à cet âge-là, la question de la vocation. Suis-je appelé par Dieu à tout quitter pour me donner à lui? C'est le secret de son âme. Mais par un coup de la providence, dont seul Dieu est capable, Joël s'en va de Nîmes, du père Raphaël, et c'est son frère Pascal qui prend sa place et que nous sommes heureux de saluer aujourd'hui, l'assurant de nos prières pour sa mission de supérieur de cette communauté éducative à Nîmes. Après, il va à l'Institut Saint-Pédis. Lui, le paysan, il monte à la capitale faire des études d'histoire. Et là encore, il va lire tout Louis Veuillot, par exemple, et beaucoup d'autres encore, et les visites de musées et les expositions. 4 années qu'il couronne par son mémoire de maîtrise. Et notons tout de suite que ses études supérieures ne lui enflent pas la tête. C'est un paysan, il le restera jusqu'au bout. Il faut payer les études, il faut payer la chambre à Paris. Alors il passe ses étés à ramasser les melons, et il fallait l'entendre raconter la dureté de ce travail sous le soleil, ramasser les melons, porter les caisses. En 1998, maître en histoire donc, il va enseigner à Sainte-Marie. Il est très heureux là-bas, il s'épanouit, il peut donner, rendre tout ce qu'il a déjà reçu. Et puis il manifeste déjà cet amour spécial pour les élèves, ce don du professeur qu'il avait. Il quittera Sainte-Marie à regret, mais il gardera toujours des liens avec l'école, les professeurs, les prêtres et bien sûr les élèves, pour venir à Vrier en 2005. En particulier, il vient ici parce qu'il est plus près de ses parents, de sa chère Touraine. Examinons si vous voulez bien Joël comme ami en tant que professeur d'histoire. Et d'abord, envers ses collègues, professeurs comme lui, dans différentes matières. Il faut reconnaître qu'il avait un don pour faire le lien entre tous les professeurs. Il avait le souci de leur parler, d'échanger, de recueillir leurs avis, de leur demander des conseils même. Et puis quand les professeurs s'éloignaient, allaient ailleurs, il gardait contact avec eux, malgré l'éloignement géographique. En novembre dernier, il écrivait, pensant à un ancien camarade d'études à Paris, professeur comme lui, « Prions bien aussi pour Joseph en grande souffrance. » Et lui, Joël, était en plein traitement. Pensons aussi aux professeurs Xavier, Bernard. Et puis, quand c'est ainsi dans nos vies humaines, il y a des froideurs ou des brisures, des incompréhensions, donc on s'éloigne. Il n'oubliait pas, il n'oubliait jamais les amis. Nous pensons à Emmanuel, avec lequel il avait repris contact. Et il écrivait en novembre dernier, tout heureux, « Nous avons repris contact après 20 ans de silence et nous avons eu de bonnes discussions. » Ses amitiés, voyons maintenant, se lient bien avec les élèves. Amitié d'une certaine manière, au sens où les anciens disaient que l'amitié est entre égaux, soit elle trouve des gens égaux de plein pied avec eux, l'amitié est facile, ou alors, si elle ne trouve pas des amis de niveau, elle les met au niveau, elle les élève. Et c'était là tout l'art de Joël. élever ses élèves, les porter de bas en haut, de l'ignorance à la connaissance, le goût de la science, l'amour de la vérité. Et quel était son principe fondamental qui l'animait au plus intime de son âme? En juillet 2020, il écrivait, après avoir raconté les aberrations du confinement dans les écoles et les manipulations par les tireurs de ficelles des loges et des arrière-loges, il concluait « Bref, rien de réjouissant, si ce n'est que l'on s'occupe d'âmes immortelles et que Dieu reste le maître. L'on s'occupe d'âmes immortelles. » Voilà, mes amis. Et cette vision surnaturelle sur les âmes immortelles lui permettait, tout en étant proche des élèves, de les respecter, d'éviter les familiarités dans le langage, dans les gestes, voire de les corriger si c'était nécessaire, parce qu'il les aimait, il aimait leur âme immortelle. Comment s'y prenait-il en pratique ? Eh bien, d'abord, il commençait toujours par rappeler le sens chrétien de l'histoire, à savoir que tous les siècles passés depuis Adam étaient orientés vers notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu incarné, et que depuis la venue de ce béni Sauveur, tous les siècles devaient vivre de sa grâce en attendant la parousie, son retour glorieux. Et c'est toute l'histoire de l'Église militante. Il était heureux quand des élèves le questionnaient, et il savait susciter leurs questions. Par exemple, il leur passait des livres ou bien des articles pour les encourager à réfléchir par eux-mêmes, à s'instruire par la lecture personnelle et non par l'écran qui ne peut pas former sérieusement l'esprit humain. Il leur parlait même, et c'est très bon, de ses propres lectures, de ses découvertes, pour leur donner le goût d'apprendre. Et bien sûr, il savait ainsi déborder au-delà du strict programme, parfois beaucoup. Mais nous ne lui en tenions pas rigueur, parce qu'il avait amorcé le goût de la vérité dans ses élèves. La classe de seconde, vous en souvenez, chers anciens, il vous prêtait en début d'année à chacun un livre pour vous faire connaître et aimer les héros catholiques des guerres de Vendée. Il avait une originalité dans son enseignement, et c'est vraiment une spécificité de Joël, conduire les élèves sur le terrain. On voit le paysan qui a les pieds sur terre. La classe de seconde s'en souvient, les deux jours chaque année passés en Vendée. Il aimait, comme il disait en souriant, ses ventres à choux. Il se sentait en osmose avec eux, en sympathie. Ils avaient défendu leur foi. Et puis, sa chère classe de terminale qu'il emmenait chaque année à Rome. Ah, qu'il les aimait, ces terminales. Pas simplement pendant la semaine à Rome, mais toute l'année. Chaque retour de quinzaine, le lundi, il organisait, comme il disait, le pot de l'amitié, et il était là, il animait les conversations. Et notons qu'à chaque fois, il payait de sa personne, de son temps, de sa santé, il fallait préparer tout cela, de son argent. Il a même dit à sa famille, il y a quelque temps, que sans doute on ne trouverait pas dans son compte en banque de quoi payer ses obsèques. Et quand il était sur le terrain, c'était pas simplement le professeur, c'était le chrétien. Il priait avec ses élèves, il égrenait le chapelet. Quand il y avait un dimanche, il allait à la messe avec eux. Et bien sûr, pour sa propre formation, il va lui-même sur le terrain, tout seul, ou bien avec un ou quelques amis. Par exemple, en 1996, pour le 15e centenaire du baptême de Clovis, ah, qu'il était content d'être allé à Reims. La cathédrale, la basilique Saint-Rémy, le musée du Thau, et puis cette rencontre qu'il avait tellement désirée avec l'abbé Goy, qui avait écrit un livre sur la Sainte Ampoule. Quelle vénération Joël avait pour la Sainte Ampoule, pour la cérémonie du sacre. Et puis ses voyages à Prague, en Espagne avec des amis, dans le Quercy, que sais-je encore. En novembre 2021, il raconte qu'après sa visite à Lourdes, voir son frère Pascal, retrouver son papa, sa maman, son frère Emmanuel, il est allé à Béziers. Il s'est arrêté à Aniane, où j'ai découvert, dit-il, Saint Benoît d'Aniane, Saint Guilhem du Désert, Narbonne, l'abbaye de la Grâce, l'abbaye de Fontfroide. Quelle richesse dans ce Languedoc! Et comme il s'allait à la région de Carpentras pour un mariage, il s'arrête à Crillon-le-Brave. Et il s'exclame, quel personnage! Effectivement, c'est le seul Français qui était à la bataille de Lépante. Et quand on sait l'amour que Joël avait pour la bataille de Lépante, on imagine son émotion de découvrir ce village de Crillon-le-Brave. Une deuxième originalité de Joël, avec ses élèves, c'est le théâtre de fin d'année. Il n'avait rien inventé. Il avait appris ça du père Raffali lui-même, lui-même héritier des pères de Timon David. Tous les étés, au camp à Ségus, il y avait une pièce de théâtre, et Joël a renouvelé cela en fin d'année. Quel dévouement! D'abord pour chercher la pièce à jouer, la mieux adaptée. Ensuite pour répartir les rôles, prévoir les décors, diriger les répétitions, le soir, après les cours. Il allait même chercher lui-même les déguisements, il les rapportait. Et enfin, le grand jour de la représentation, il encourageait, il calmait, il réconfortait les acteurs. Et sa grande joie, c'était après, des mois, des années après, il regardait les pièces sur DVD, avec des élèves bien sûr. Que de rire, que d'émotion. Il nous faudrait aussi parler du don de sa personne dans les journées Jean Vaquier, en particulier, pas simplement les exposer, mais comment il savait associer les lycéens, les terminales spécialement, pour l'organisation matérielle, bien sûr, utiliser leurs bras, mais aussi leur donner le goût de la doctrine, de la vérité. Et le soir, il allait avec eux pour s'occuper d'eux, attentif à tous les détails. Enfin, mentionnons dans ses amitiés avec les élèves, les amitiés avec ses anciens élèves. C'est ce que nous appellerons sa troisième originalité. Rappelons son grand principe. On s'occupe d'âmes immortelles, donc impossible de les lâcher, de les abandonner. Que Dieu ne plaise. En novembre 2021, après la cousinade, il écrit « Je suis parti dans les Hautes-Alpes, à Serre-Ponçon, avec Mathurin, Arthur et Augustin, des anciens élèves. Ce fut une semaine magnifique de randonnées et de visites. Notre-Dame-du-Laus, Notre-Dame-de-la-Salette, le parc naturel du Queyras, Embrun, là encore, que de richesses de toutes sortes. Lui, pas spécialement sportif. Il allait quand même, avec ses anciens élèves, de l'école Sainte-Marie spécialement, qu'il savait passionné de sport, à Paris et même à Édimbourg pour des matchs. C'était l'occasion d'une détente, c'est vrai, mais plus profondément, de renouer contact avec eux pour les encourager à demeurer fidèles à la foi catholique et aux mœurs chrétiennes. Que d'heures n'a-t-il passé au téléphone avec ses anciens élèves? Et cet ancien élève, marié, père de famille, en difficulté dans son foyer, que de téléphones, Joël, n'a-t-il pas passé? Et même tout un week-end, pour réconforter, penser le cœur brisé, essayer d'arranger les choses. Sa joie, bien sûr, c'était de participer au mariage de ses anciens élèves et de fêter les naissances. Il nous faudrait parler aussi, mais nous ne le ferons pas, de ses liens avec les parents de ses élèves. Il savait bien que les élèves sont les héritiers des parents, et donc il s'attachait à cultiver l'amitié autant qu'il le pouvait avec les parents. Terminons ce registre des amitiés avec les amitiés religieuses de Joël envers les personnes consacrées, les prêtres, les religieux, les religieuses. Envers les moniales dominicaines, là, à Vrier, il aimait converser avec la fondatrice, Mère Marie-Emmanuelle. Il allait confier des intentions de prière. Il allait même participer à la messe à l'occasion. Avec les prêtres, en particulier la frise Saint-Pédis, dont plusieurs étaient ses anciens élèves, et je pense spécialement aux prêtres qu'il a connus à Sainte-Marie, il gardait des contacts, des rapports. Quelle émotion n'a-t-il pas eue quand, lors d'une retraite prêchée au professeur du foyer Saint-Thomas d'Aquin, il a vu arriver un capucin de Morgon, qui était son ancien élève à Sainte-Marie. Quel respect, quelle joie il a manifesté, lui le professeur de ce tout jeune père. Il écoutait sa prédication, il la buvait, il se laissait guider par le Saint-Esprit parlant par ce capucin. Ses liens avec les Clarisses capucines de Morgon, chaque année il leur offrait un magnifique bouquet de fleurs pour demander leur prière à Sainte-Claire afin d'obtenir du beau temps pour la fête de fin d'année, et il remerciait toujours. Nous sommes ainsi conduits, chers amis, chers fidèles, aux amitiés de Joël avec ceux qui ont quitté cette terre. D'abord avec les défunts. Une chose était frappante, c'était sa passion pour rechercher les tombes d'un certain nombre de défunts, en particulier des anti-libéraux catholiques. Il avait constitué tout un dossier et il n'était jamais satisfait tant qu'il ne savait pas où cette personne avait été inhumée. C'est ainsi qu'après une retraite de professeur à la Norgard, il les avait promenés dans des cimetières, cherchant la tombe de Monsieur de Ségur, allant visiter le village natal du révérend père Le Floch. Quelle piété filiale! Tout simplement parce qu'il se reconnaissait héritier. Il n'a jamais prétendu inventer. Il voulait transmettre. Imitons-le, mes chers amis, en venant souvent prier sur sa tombe, qui sera ici dans le bois, tout à côté. Et puis, autre amitié, donc c'est les saints du ciel. Quelle dévotion, quelle piété pour eux. Ils croyaient en leur intercession. Pour lui, c'était des vivants, des vrais vivants, tout puissants. Ils sont dans le sein de la bienheureuse Trinité. Alors il les invoquait. Il allait même, quand il pouvait, sur leurs pas. Ainsi, Sainte Jeanne d'Arc à Chinon, et pas très loin, la petite chapelle de Sainte Catherine de Fierbois, il montrait le petit gué par où elle avait dû passer. Le grand Saint Martin de Tours, qu'il priait pour devenir lui aussi, comme Saint Martin, un soldat de Jésus-Christ. Que de fois n'a-t-il pas conduit des élèves à Caen Saint Martin, là où le grand apôtre a rendu son âme à Dieu, et Saint Rémy de Reims, et Saint Pierre et Saint Paul à Rome, et tous les tombeaux des saints dans la capitale de la chrétienté. Pensons-y tout à l'heure, mes chers fidèles, quand nous chanterons les acclamations carolingiennes, et essayons d'entendre la voix de Joël qui s'unira à nous pour supplier ces saints qu'ils quittent le purgatoire au plus vite. Il aimait surtout les saints qui ont fait la France chrétienne au Moyen-Âge. Il avait écrit sur eux. Lisez, relisez ces deux brochures sur les saints du Moyen-Âge de la France. Et c'est pourquoi il avait en horreur le protestantisme qui a toujours poursuivi de sa haine féroce le culte des saints, les reliques des saints, les représentations des saints, Lisez, c'est pas long, chers amis, les 16 pages de sa petite brochure sur le protestantisme assassin, le chapitre consacré à l'iconoclasme huguenot. On sent la piété de Joël. Il est révulsé par ses violences, ses insanités, parce qu'il aime ses saints, il les vénère. Il nous semble que cette piété profonde, cette dévotion confiante de Joël envers les saints du ciel, comme des médiateurs entre Dieu et nous les hommes sur la terre, a contribué à façonner l'âme de Joël, pour en faire, à sa mesure, ici-bas, un médiateur, quelqu'un avec qui tous prenaient plaisir à s'entretenir, à échanger, voire à se confier. Certes, il parlait, et parfois beaucoup, mais il savait aussi se taire et écouter. C'était un antilibéral fervent, implacable sur la doctrine. Il suffit de se souvenir de ses références, Monseigneur Gaume, Louis Veuillot, de Lassus, etc. Mais il avait l'esprit doux, il n'avait pas l'esprit de chapelle, l'esprit de secte. Et quand il sentait un embrigadement, une prise en main, excluant tout le monde, il ne faisait pas scandale. Il s'esquivait tout simplement, avec délicatesse. Et c'est vrai qu'il facilitait la confiance et même les confidences parce qu'il avait une certaine timidité, une sorte de réserve, comme une pudeur. Et spécialement, dès que l'assemblée devenait un peu importante, c'est-à-dire une vingtaine, pas plus qu'une classe, alors il s'esquivait. Mais il savait garder pour lui ce qu'on lui confiait, le porter dans sa prière, en demandant des messes, en égrenant son chapelet. À cette discrétion, il joignit une réelle humilité concernant ses activités et ses œuvres. Il y a là, il faut le reconnaître, un mystère chez Joël que peut-être, au fil des années, les uns et les autres parlant, confiant leur souvenir, quelqu'un arrivera à débrouiller. Ainsi, par exemple, un bon camarade qui connaît Joël depuis 10 ans, avec qui il parlait beaucoup d'histoire, n'a découvert qu'après le décès de Joël, qu'un sujet qui lui tenait très à cœur, lui, cet ami de Joël, Joël avait écrit une brochure à ce sujet. Et jamais il ne lui en avait parlé. Cet homme s'est écrié, humble comme c'est pas possible. Jamais il ne m'a parlé de ses écrits. Eh oui, mes chers amis, quel modèle. Et pourtant, c'est vrai qu'il avait écrit des brochures et des livres, des articles. Il faut dire qu'il avait l'art de se cacher, de s'effacer sous divers pseudonymes. Mais il nous semble que c'était une marque spéciale, spécifique de sa personnalité. Sur ce chapitre de Joël, professant avec ses élèves, pour vous, chers anciens élèves de Joël, anciens élèves de Sainte-Marie d'Avrier, trois leçons peuvent se dégager pour vous. La première, c'est le noble métier de professeur. Ah, quelle paternité exerce un vrai professeur chrétien. En quantité d'abord, beaucoup de jeunes gens lui passent entre les mains, mais surtout en qualité. Chers pères et mères de Joël, soyez fiers de votre fils. Il vous a donné beaucoup de fils spirituels, intellectuels. Rendons hommage aussi à ce monsieur Luc, ce professeur à Chinon, un professeur dans une petite ville de province. Ça donne Joël Morin. Et ensuite vous, ses élèves, et n'avez-vous pas envie de l'imiter de transmettre le flambeau. Réfléchissez, mes chers amis. Deuxième leçon, c'est le devoir de lire et le plaisir de lire. Pas des écrans, de lire des livres, de vrais livres qu'on tient en main, qu'on sent, dont on tourne les pages. Que de livres il a donné, distribué. Et puis, troisième leçon, cultiver les vraies amitiés, c'est-à-dire des amitiés intellectuelles dans l'esprit, dans l'âme, et chrétiennes. Et puis des amitiés concrètes, non pas virtuelles, sur écran. Vous voir, vous parler entre vous, avoir des activités communes, vous soutenir, vous rencontrer, vous donner du temps les uns les autres. Ah, si vous pouviez tous imiter le cher Joël. Il n'avait pas de tablette. Il ne caressait pas un écran. Retenez la leçon, chers anciens élèves de Joël. Oui, mes chers amis, la complainte de David est vraiment nôtre. Joël, par ta mort, nous sommes navrés. Nous sommes dans la détresse à cause de toi, notre frère Joël. Tu avais pour nous tant d'attraits. Ton amitié nous était plus merveilleuse que l'amour d'un époux ou d'une épouse. Mes frères, nos prières, nos pénitences, les messes que vous avez demandées pour obtenir la guérison de Joël, auraient-elles été vaines? Certainement pas. Au contraire, elles ont beaucoup profité à son âme. Il y a déjà 5 ans, il avait dit devant plusieurs personnes, « Le cancer est une bénédiction pour un chrétien, car il lui permet de se bien préparer à mourir. » Et il a répété cette pensée profonde après Pâques dernière. En janvier 21, il écrivait, « Je viens de subir 4 chimios lourdes, assez difficiles à vivre, mais c'est très bon pour la sanctification et pour la réparation. » Je suis dans les mains de Dieu, comme nous tous, et je m'en tiens à sa sainte volonté. Et en mai 2021, il écrivait encore, « Mes petites souffrances ont été offertes pour le couvent et pour les élèves. » Joël avait reçu les onctions du baptême, celle de la confirmation et la dernière, l'extrême onction, celle pour les malades, près de la fin. Croyons, mes chers fidèles, que Dieu bon, miséricordieux, il aime celui qu'il aime et celui qui s'abandonne à lui. Et parce que Dieu l'aime, il fait profiter ses souffrances à sa purification, sa sanctification, à son bonheur éternel. Et si nous sommes aujourd'hui, peut-être, excessivement tristes et malheureux, n'est-ce pas parce que nous manquons de foi, parce que le mystère de la croix nous rebute, parce que nous ne souhaitons pas vraiment aller au ciel et que nous cherchons des prétextes pour nous accrocher à cette vallée de larmes? Et quand Dieu, dans sa bonté, nous rappelle que nous ne sommes pas faits pour la terre mais pour le ciel, nous gémissons. Or, ce n'est pas, mes chers amis, le nombre des années passées sur terre qui importe, mais leur plénitude de fidélité à Dieu, à ses commandements, spécialement de l'aimer par-dessus tout et d'aimer notre prochain. Alors, mes chers amis, offrons la croix de notre douleur présente pour l'âme de Joël, afin qu'il entre au plus vite au paradis. Dieu nous fait en ce jour la grande grâce de souffrir moralement pour que nous unissions notre douleur à celle du Sauveur Jésus qui va s'offrir sur l'autel de la messe pour l'âme de Joël. Dieu lui-même, mes chers amis, s'est servi du témoignage de la croix pour nous montrer à quel point il nous aimait. Eh bien, à nous de lui offrir à ce Dieu d'amour le témoignage de notre douleur pour lui prouver que nous l'aimons et que nous avons foi en lui. N'est-ce pas d'ailleurs ce que le prêtre chantera dans la préface de la messe ? En Jésus-Christ a brillé pour nous l'espérance de la bienheureuse résurrection, pour que ceux qui se contristent actuellement par leur condition absolument certaine de mourir soient consolés par la promesse de l'immortalité future. En effet, Seigneur, pour vos fidèles, la vie n'est pas enlevée, elle est simplement changée. Et quand la demeure de cette habitation terrestre est dissoute, on obtient une habitation éternelle dans le ciel. Consolez-tour, consolez. Et vous l'avez entendu dans l'épître de saint Paul aux Thessaloniciens, le même mot. Consolez-vous les uns les autres. Et encore ailleurs, ne soyez pas contristés. Il est évident, mes chers amis, nous terminerons par là, que Joël s'était préparé spécialement depuis 2 ans. Mais il faut aussi croire que, comme le dit saint Paul, « Deus vult omnes homines salvos fieri ». Dieu veut sauver tous les hommes, et donc il fait tout ce qu'il faut. Il est tout puissant, infiniment bon. Alors il a purifié notre ami Joël, dans son corps et plus encore dans son âme. La solitude de telle maladie, quelle épreuve, mes amis. L'inquiétude, les angoisses devant la douleur, les hauts et les bas, et l'incertitude quant à l'avenir. Ah, l'extrême onction a été efficace. Le sacrement de pénitence qu'il a reçu plusieurs fois, il ne s'est pas révolté, il a même accepté et il s'est offert. En ce lundi 22 août, fête du cœur immaculé de Marie, contemplons la bienheureuse Vierge au pied de la croix. Certes, Stabat Mater Dolorosa, elle est douloureuse, la mère, debout au pied de la croix. Mais elle offre volontiers et volontairement son Fils à Dieu le Père. Elle se souvient que Jésus a dit « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne ». Alors l'Immaculée se conforme à son unique et elle donne son unique. Eh bien, nous aussi, mes chers amis, demandons à la Sainte Vierge Marie que de nos âmes baptisées, confirmées dans le Saint-Esprit, nous ayons la force d'offrir l'âme de Joël par notre Seigneur à la très sainte Trinité. Vous savez que il devait se rendre à Lourdes à la fin de la semaine. À Lourdes, la Vierge Immaculée a dit à Bernadette, « Je ne promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais dans l'autre. » Ah, mes amis, que l'exemple de Joël nous marque profondément, durablement, pour penser au ciel. Ce jour, aujourd'hui, commence le 31 de messe pour l'âme de Joël. Unissons-nous-y sérieusement, tous les jours. C'est la plus grande marque d'amour, d'amitié, de gratitude que nous puissions offrir à Joël, afin que son purgatoire se termine, qu'il puisse contempler Dieu face à face. Il avait dit, « Si je vais au ciel, je n'oublierai ni le foyer Saint-Thomas d'Aquin, ni le sel de la terre, et ajoutons, ni ma famille, ni mes amis. » Alors, si vous bien, mes chers fidèles, pour conclure, en nous rappelant comment sainte Bernadette à Lourdes avait appris la Sainte Mère de Dieu comment faire le signe de la croix, faisons nous aussi notre signe de la croix avec des grands sentiments de foi et d'espérance surnaturelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.